Low Carbone Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bâti Radio.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour ce tout nouveau numéro de Low Carbon Construction. Vous le savez, ce sont les enjeux du moment de réduire notre empreinte carbone et quoi de mieux que de le faire au travers du bâtiment qui est un des plus gros émetteurs, on le sait, des fameux gaz à effet de serre. Alors on va s'intéresser justement aujourd'hui à peut-être des éléments de réponse ou de solutions avec les matériaux biosourcés. Et à travers ces matériaux biosourcés, on va voir qu'ils sont de divers ordres. On a la paille, on a le chanvre, on a déjà parlé du bois bien évidemment. Eh bien, on va aussi un enjeu de formation. Où trouver les compétences? Comment recruter les bonnes personnes? Est-ce que justement ce biosourcé, ce géosourcé, eh bien, il est générateur de vocation? On va voir aussi que c'est un enjeu d'assurantiel bien évidemment. Alors, pour discuter de tous ces beaux sujets, nous sommes en compagnie de 4 experts sur le plateau. Avec moi, un Bâti Radio, Benoît Rougelot, bonjour.
Bonjour.
Benoît, vous êtes président du réseau français de la construction paille, RFCP, et vous vous intéressez également, bien sûr, à la formation grâce à ProPaille.
Tout à fait. En 2011, le réseau a écrit les règles professionnelles qui permettent l'assurabilité des bâtiments et de construire dans les règles de l'art. Et assujetti à ça, on a monté une formation ProPaille de 5 jours qui valide les stagiaires qui connaissent bien les règles.
Alors on va y revenir dans un tout petit instant, on va présenter le reste des panélistes. On est en compagnie de Lionel Correa. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Vous êtes directeur du BTPCFA Auxerre, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Comment favoriser la diffusion des biosourcés via la formation initiale, bien évidemment, avec pas mal d'exemples. On va voir ça dans quelques minutes. On est en compagnie également de Laurent Dande. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes référent national technique pour les constructions biosourcées, géosourcées, contrôle technique APAV. Bienvenue à vous.
Voilà, nous, notre métier, c'est d'assurer la prévention des aléas techniques sur les chantiers. Donc, on commence dès la conception, et j'insiste sur l'aspect conception, notamment pour les matériaux biosourcés, géosourcés, qui demandent peut-être un petit peu plus de mise au point que d'autres techniques. Et ensuite, on a le déroulé du chantier qui se passe bien si, justement, tous les acteurs sont bien formés.
Très bien, bienvenue à vous. Et enfin, on accueille Quentin Pichon. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous.
Vous êtes administrateur de Construire en Chanvre.
Oui, c'est ça. Oui. Je suis administrateur de Construire en Chanvre. Et principalement, en fait, j'ai une mission depuis plusieurs années là, de piloter la commission normalisation. Hein, c'est l'écriture des règles professionnelles. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu notre DTU à la filière chanvre.
Oui, alors je vous l'ai dit, pour tous ceux qui nous écoutent, on va essayer d'éviter les acronymes ou bien de les traduire. Alors voilà, premier acronyme, on traduit le DTU.
Eh bien, DTU, je commence, c'est le document technique unifié. Donc, ce sont les textes normatifs qui encadrent un petit peu la manière. C'est un des textes normatifs qui encadre la manière de construire dans le bâtiment en France.
Très bien. Merci à vous tous d'être là. Alors, avant d'attaquer la formation, je voudrais refaire un point, effectivement, sur ces nouvelles ressources, ces nouveaux matériaux, les biosourcés. C'est vrai c'est un peu un fourre-tout, Benoît Rougelot. Vous êtes notre représentant paille. On vous a déjà vu sur ce plateau. Et vous nous aviez raconté, effectivement, de la maison Feuillette, construite il y a 100 ans, à maintenant l'essor, en fait, d'une filière très dynamique. Eh bien, cet essor, en tout cas, et cet intérêt qui progresse de jour en jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, après, on va dire, il y a eu un renouveau. Enfin, Émile Feuillette a construit effectivement sa maison en 1920. Après, il y a eu les deux guerres mondiales et la reconstruction où cette construction biosourcée avant-gardiste à l'époque a été un peu... disparu. Il y a eu un renouveau dans les années 80 et beaucoup d'autoconstructeurs se sont mis aux matériaux, enfin faire de l'éco-construction, on va dire. Et jusqu'en 2011 où le réseau français de la construction paille a décidé de normaliser, enfin de permettre l'assurabilité et de faciliter aussi pour même pour les autoconstructeurs de faire des choses dans les règles de l'art. pour éviter les désordres. Et effectivement, à partir de ce moment où il y a eu quelque chose qui s'apparente au DTU, comme l'a dit Quentin, et qui est devenu une technique courante en termes d'assurabilité, il y a eu un essor de la part des concepteurs. Et de plus en plus de bâtiments publics, donc en marché public, accueillant du public, ERP, établissements recevant du public, donc des écoles, des collèges, des lycées, des mairies, se sont ont vu fleurir en fait sur les territoires français grâce grâce aux règles professionnelles qui facilitaient la vie des professionnels.
Oui, et ça fait florès, on va dire, non seulement en France, mais également en Europe. On a vu dans le dernier Low Construction, Low Carbon Construction, l'épisode sur Upstraw, hein, cette initiative pan-européenne. On est suivi évidemment, et il y a des échanges comme ça de techniques à travers toute l'Europe, et c'est extrêmement dynamique. Est-ce que, Quentin Pichon, on est sur la même dynamique en ce qui concerne le chanvre?
Ouais, complètement. Alors le premier bâtiment connu français qui intègre du béton de chanvre, c'est un bâtiment qu'on appelle la Maison de la Turque. Là, c'était dans les années 86. Donc il y a un peu plus de 30 ans. Et depuis, donc il y a une association qui s'est créée un peu à l'image du réseau français de la filière paille. Là, ça s'appelle donc Construire en Chanvre. Et donc ça réunit tous les professionnels, artisans, maîtres d'œuvre, architectes, industriels, qui soient ceux qui produisent le chanvre ou ceux qui produisent le liant, donc la chaux. Et donc on est un peu sur le même principe, et donc les premières règles professionnelles datent de 2007. Mmh. Donc c'est les premières à avoir donné l'assurabilité à tous les professionnels. Il y a une autre version en 2012, et il y a une troisième version qui est en cours d'écriture, qui devrait sortir sous peu, mais c'est pas évident. Pour en reparler après, c'est un des freins à la construction et au développement de la filière aujourd'hui. Je vois Laurent qui sourit. Voilà, on pourra reparler de ça au moment des freins. Mais oui, on est un peu sur le même modèle que la filière paille dans le cas du chanvre.
D'accord, juste pour préciser, parce qu'on n'a pas eu encore l'opportunité de faire une émission consacrée directement au chanvre. Qu'est-ce qu'on bâtit en chanvre aujourd'hui?
Alors on peut bâtir, alors il y a plusieurs choses. On peut utiliser déjà le chanvre soit sous forme de laine, donc là c'est vraiment comme une laine minérale qu'on a l'habitude de voir dans le commerce et dans beaucoup de bâtiments. Donc c'est un isolant souple qui est constitué de chanvre et qui est parfois mélangé à d'autres matériaux comme la ouate ou le lin. Donc on reste sur des ensembles biosourcés. Où on retrouve le chanvre aussi, on va utiliser donc une autre partie de la paille qu'on appelle la chaîne vote. C'est le bois du chanvre, le cœur de la paille de chanvre. Ça ressemble à des copeaux de bois qu'on vient broyer, et on s'en sert en fait, on substitution, entre guillemets, on va plutôt que de mettre du sable, du gravier et des gravillons pour faire un béton, mmh. Et bien on va mettre de la chaîne vote, donc du chanvre à la place, et on forme un béton végétal. Et donc Construire en Chanvre aujourd'hui est une association qui milite pour développer principalement cet aspect-là, le béton de chanvre. Donc on fait tout type de bâtiment, ouais. J'ai pas été jusqu'au bout, donc j'ai défini le matériau, mais les bâtiments, on fait des écoles, des immeubles. Moi, à titre personnel, je suis associé d'une agence d'architecture où on s'est dédié principalement qu'au béton de chanvre. Et donc là, on fait un hôtel en ce moment, on fait un centre commercial. On peut faire tout type de bâtiment.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle le béton végétal?
Oui, ça rentre dans la caractéristique, ça rentre dans la casquette, oui, béton végétal. Même si derrière béton végétal, le végétal est beaucoup plus large. Donc on peut imaginer le miscanthus, la balderie, la moelle de colza, de tournesol, les bétons de lavande. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais qui soient assurables, qui bénéficient d'une assurabilité via des règles professionnelles. Aujourd'hui, il n'y a que le chanvre via le béton de chanvre.
Bien sûr. Est-ce que, comme notre ami Benoît, qui peut faire référence à la Maison Feuillette, il y a un bâtiment emblématique aujourd'hui qui est en chanvre, que tout le monde peut connaître?
Alors oui et non, parce qu'il y a moins de, du coup le premier, comme je disais là, il est plutôt des années 85-86 par là. C'est une rénovation d'une maison typique à pan de bois, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est une des débouchés du matériau, la rénovation des colombages, qui est très importante. Mmh. Donc c'est dans la filière, c'est un peu notre bâtiment emblème, puisque c'est le premier connu. Après aujourd'hui, on va dire que ceux qui font le plus parler d'eux, c'est les bâtiments qui sont de plus grande hauteur, qui sont en train de naître là en région parisienne, avec un R+8 notamment là, qui a été livré il y a peu, qui intègre des façades bois béton de chanvre.
Très bien, bon ben allez voir évidemment et allez tester peut-être. Laurent Dante, justement, je vous laisse la parole. Vous êtes référent national technique pour les constructions biosourcées, géosourcées. Là, vous constatez aussi, j'imagine que vous avez de plus en plus de travail aussi. Vous le ressentez, cet essor là, pour cet engouement, je dirais presque, pour les matériaux biosourcés?
Oui, complètement, puisque moi je me suis intéressé à ces matériaux de par mes convictions personnelles, on va dire dans les années 2005-2008. À l'époque, j'étais le Nif-Nif, Naf-Naf, les trois petits cochons avec les maisons en paille. Mm-hmm. Depuis, la situation a beaucoup évolué, puisque les projets se sont multipliés, qu'ils soient en technique courante ou non courante d'ailleurs, puisqu'on a des techniques qui sont couvertes par des règles professionnelles, par des DTU, on l'a dit, et d'autres qui ne le sont pas. Et pour autant, il n'est pas interdit de construire en technique non courante. Donc, il y a des innovations. On en parle de techniques innovantes, même si ce sont des techniques qui sont utilisées depuis le néolithique, d'ailleurs. Oui. Et donc aujourd'hui, on a même des industriels qui s'intéressent aux matériaux biosourcés. C'est tous ces matériaux biosourcés, de par leur nature, stockent par le processus de photosynthèse du carbone. Donc le carbone, au lieu d'être dans l'atmosphère, il va se retrouver dans les murs. Et on a cette fameuse RE 2020, réglementation environnementale 2020, qui prend en compte justement le stockage de carbone avec son fameux calcul dynamique qu'a fait beaucoup parler à l'époque où il y avait le débat statique ou dynamique. On va de plus en plus encore développer ces matériaux, et c'est pour ça que nous à la PAB on a mis en place un réseau en fait de techniciens biosourcés pour accompagner au mieux et finalement booster ces matériaux biosourcés et puis in fine avoir des ouvrages qui tiennent debout, qui sont conformes à la réglementation et qui permettent de réduire l'impact climatique.
Très bien. Lionel Correa, vous êtes directeur du BTP CFA au Caire. Justement, là aussi, vous me disiez en préparant l'émission qu'on avait, que c'était quelque chose de relativement nouveau, quoi. Ça a quelques années, cet engouement que vous voyez aussi tous les jours parmi vos élèves, parmi les étudiants ou les apprentis.
Oui, alors nous, c'est plutôt un projet atypique d'inclure des modules de formation dans nos formations initiales, parce que en fait, c'est plutôt un projet qui est territorial, parce que nous sommes situés en Nord-Seine-et-Marne, à côté de Meaux, et nous avons une usine de transformation de chanvre qui s'appelle Planète Chanvre, mmh. Donc qui a commencé un petit peu à venir un petit peu voir un petit peu ce que nous faisions en formation, et petit à petit, on a un formateur qui a commencé à s'intéresser justement au pétrole de chanvre, notamment, donc c'est de la chaux mélangée avec de la chenvote. Et petit à petit, il a intégré ses modules de formation en CAP maçonnerie. Donc le CAP maçon, c'est une formation qui se prépare en 2 ans. Et si vous voulez, qui permet d'acculturer petit à petit nos jeunes sur tout ce qui était isolation en béton de chanvre ganché ou projeté. Ensuite, si vous voulez, on a un petit peu étoffé le projet, puisque on est en train de construire un démonstrateur biosourcé. Donc le démonstrateur biosourcé, il est original de par son projet, parce que si vous voulez, ce qui est important, c'est que tous les jeunes participent à la construction de ce démonstrateur. Donc ce sont des modules de formation qu'on inclut dans nos formations initiales, mais pas que, puisqu'on développe également de la formation continue. Et alors, de par le territoire, comme je vous le disais, avec l'usine de transformation de chanvre, on a commencé à s'intéresser également aux autres matériaux biosourcés, qui sont également la terre crue, également un petit peu la paille. Oui. En fait, tous nos jeunes aujourd'hui, donc le projet a démarré en 2017, on est en train de terminer le démonstrateur biosourcé. Donc, qu'est-ce que c'est le démonstrateur biosourcé? C'est ni plus ni moins, ça sera un plateau pédagogique qui va permettre tout simplement de former et d'acculturer, que ce soit des jeunes en formation, également des maîtres d'œuvre, des artisans, sur tout ce que l'on peut réaliser en matériaux biosourcés, que ce soit de l'isolation, isolation en chanvre, comme je le disais, également en terre crue, en paille également, et on sera normalement, on devrait devenir la référence pédagogique, en tout cas sur le territoire francilien. Et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, parce que la grande avancée de la construction dans les matériaux biosourcés, c'est qu'aujourd'hui, en CAP maçon, est intégré au niveau national un module chambre. Et ça n'existait pas il y a encore quelques années, quoi. Et pour vous dire, donc, avant d'arriver sur en Seine-et-Marne, au CFA Docker, donc, j'ai été directeur d'un CFA du bâtiment dans l'Oise. Je ne connaissais pas du tout, le chanvre, le béton de chanvre. Et c'est vraiment en arrivant en Seine-et-Marne, du fait de sa proximité avec l'usine de transformation, que petit à petit, j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Et aujourd'hui, l'engouement pour les jeunes, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sont quand même des jeunes qui sont en formation, qui sortiront avec un diplôme, qui auront touché du doigt la notion de matériaux biosourcés. Ils se rendent compte que finalement, on peut construire aujourd'hui différemment. À mon avis, ça sera nos meilleurs ambassadeurs. Voilà.
Eux sont convaincus et vous, finalement, Lionel, vous êtes tombé dedans. Voilà, maintenant un petit peu quelques temps convaincu. Oui. Alors, vous m'avez envoyé évidemment quelques photos. On essaiera de les mettre sur le site de Bâti Radio pour voir justement ce démonstrateur. Vous m'avez parlé également d'écorché. Alors pour moi, vous voyez comme quoi ça faisait référence à nos cours de biologie. Bah là, c'est un peu la même chose, mais pour le bâtiment. Et on voit en fait tout à fait comment ça se passe et comment c'est fait.
Oui, c'est ça. Parce que en fait, l'originalité du projet, comme je vous le disais, c'est très important, c'est que c'est vraiment nos jeunes en formation qui ont construit le démonstrateur. Donc le démonstrateur, il est composé de deux bâtiments, un bâtiment salle de réunion, un bâtiment sanitaire avec deux écorchés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le bâtiment salle de réunion, ce que l'on a fait, c'est que justement, pour pouvoir montrer au public comment a été conçu le bâtiment, parce que c'est un bâtiment en ossature bois, en isolation béton de chanvre, terre crue, de voir un petit peu comment a été conçu les différentes étapes de construction de ce bâtiment. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, à terme, ces deux bâtiments-là, évidemment, seront ouverts également au public, qui pourront se rendre compte de ce que l'on peut faire ou de ce qu'on peut construire aujourd'hui différemment, autre que par rapport aux matériaux traditionnels que l'on connaît, en fait.
Bien sûr. Bon, je vais me tourner vers messieurs Paille et messieurs Chanvre, évidemment. Benoît, on commence avec vous. C'est extrêmement important aujourd'hui de se tourner vers la nouvelle génération et de les intéresser, j'avais envie de dire presque depuis le plus jeune âge, à cette nouvelle technique et surtout à ces nouveaux matériaux.
Ah oui, parce que on sait que les jeunes ont une appétence et une sensibilité aux questions climatiques. Donc ils sont en attente et je dirais qu'aujourd'hui malheureusement la formation initiale est pas à la hauteur et n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Comme me dit Monsieur Correa, c'est Fadoker et précurseur, mais c'est pas le cas partout. On est encore sur des choses conventionnel, on va dire. Enfin,
ça n'a pas encore assez diffusé, finalement. C'est encore.
Ça commence. Après, moi, j'ai des petits chiffres. J'ai essayé de pas faire trop de chiffres, mais
Alors, je précise à notre auditeur, il est venu, il a étalé tous ses documents et ses fiches sur la table. Voilà, il a ses antisèches. C'est ça. Et donc, allez-y pour les chiffres.
Donc, comme je le disais au début, on a monté les règles pro et la formation qui en 2011. Et un des chiffres, c'est il y a eu 300 formations organisées depuis en 10 ans. Et donc, ce qui fait 3150 stagiaires formés. Donc effectivement au début, la première année il y en avait 15, donc c'est monté progressivement et aujourd'hui on est sur un rythme de croisière de 500 formés par an.
Ah oui, c'est pas mal.
Sachant qu'en 2020-2021 on a eu un quart des formations qui ont été annulées pour des questions de crise sanitaire.
Hein. Oui. C'est des choses qu'on peut faire à distance ou pas trop ?
Non, pas du tout, parce qu'il y a, justement, enfin, c'est comme le démonstrateur, c'est qu'il y a un aspect pratique, mise en œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, ça dure 5 jours et il y a la moitié du temps qui est de la théorie, donc de la physique de bâtiment, la migration de la vapeur d'eau dans une paroi. Donc des fois, c'est un peu technique pour certains stagiaires. Mais l'idée de ce stage, c'est aussi de mélanger des concepteurs et des constructeurs pour aussi échanger les pratiques entre eux. Donc voilà, on essaye de balayer toutes les questions de dynamique de bâtiment avec de la pratique. C'est-à-dire qu'on fait tester les bottes de paille, c'est-à-dire qu'il y a deux choses à avoir, c'est la densité et l'humidité. Mmh. Et donc on a des appareils de mesure très très simples. Et il faut que chaque personne qui ait fait la propaille soit capable d'utiliser ces outils très simples, parce que c'est ça qui garantit en fait que la botte de paille est a les bonnes propriétés pour être mise dans un mur.
Ouais, et puisse reconnaître demain son outil de travail et s'il Exactement. S'agit d'un bon matériau ou pas pour
Tout
son
à
client.
Fait. Très bien. Et après on a aussi donc il y a cette formation propaille qui est cadrée. Et elle est aussi inclue dans des formations longues, type CFA. Donc moi, j'ai une petite liste, c'est technicien bâtiment basse consommation, ouvrier professionnel en éco-construction, maçon terre crue, coordinateur en rénovation énergétique, constructeur bois, chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment, système constructif bois et habitat. Donc voilà, on pense que c'est important aussi pour ces personnes qui sont pas forcément directement impliquées dans la construction paille ou la conception ou la construction, mais d'avoir des notions et de savoir que ce qu'il faut vérifier, s'il est chargé d'affaires en rénovation, bah, il faut qu'il sache ce qu'il y a dans un mur en paille.
Bien sûr. Même question pour le chanvre, Quentin.
Ouais. Alors moi, je ne sais pas si j'appartiens à l'ancienne ou à la nouvelle génération encore un petit peu. Je suis en début de. J'étais à l'école il y a pas si longtemps que ça, il y a 6-7 ans. Mais c'est vrai que sur là, je peux parler de mon cas personnel. Hein, je suis passé par deux écoles, une formation école d'architecture, une formation école d'ingénieur, par la classe prépa. Et il y a aucun moment j'ai entendu parler. Donc du coup, c'était début des années 2010 de biosourcés ou quoi que ce soit dans une école comme dans l'autre. Hein, c'était pas du tout le sujet. Du coup, j'ai découvert ça après. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'à l'agence que je co-dirige, tous les nouveaux jeunes archis qu'on embauche, ils viennent tous nous voir parce que, alors pas parce qu'ils l'ont étudié forcément à l'école, mais parce qu'ils ont la fibre, comme ça a été dit juste avant, c'est-à-dire qu'ils ont, ils sont vraiment moteurs et ils ont envie d'avancer vers ça. Donc sur, je pense qu'il y a encore des manques, hein, du travail à faire côté filière vraiment académique, type école d'archi ou autre. Après, à construire en chambre sur la formation en direction des artisans et des maîtres d'œuvre, là c'est un peu comme pour la paille, ça va crescendo tous les ans, ça explose un peu. La formation de maîtrise d'œuvre, donc à direction des architectes, maîtres d'œuvre, on a également aussi des thermiciens, des bureaux d'études environnement, etc. Elle a été lancée il y a un petit 3 ans, un an grosso modo avant tout le sujet sanitaire, et ça marche plutôt très très bien. Il y a énormément de demandes, et notamment ce qu'on observe à construire en chambre, c'est que il y a beaucoup de cabinets parisiens ou de grosses métropoles qui envoient leurs salariés parce qu'ils commencent à avoir des demandes dans des consultations, dans des appels d'offres, pas forcément publics, mais des appels d'offres de promoteurs qui font des petits concours privés pour avoir du logement et intégrer, enfin dans des ouvrages de logement intégrer du biosourcé. Donc là-dessus, c'est plutôt assez positif le fait que la demande commence à monter, parce que si la demande monte, c'est que derrière, j'imagine que les formations, ça va devoir forcément suivre.
Ça va devoir s'adapter. Comment on s'explique là justement, on a l'impression que le mouvement, ça y est, il prend de l'ampleur, on en parle de plus en plus, on voit que nos voisins européens ne sont pas en reste. Comment s'explique en fait qu'il y ait encore des réticences, que ce ne soit pas mis au programme des différentes écoles, que ce soit ingénieur ou autre?
Bah, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une question aussi d'inertie dans le bâtiment. C'est compliqué de faire bouger les choses. La filière béton, même si on a encore besoin du béton ciment, j'entends, et de la construction métallique, ça reste quand même la grosse partie du marché aujourd'hui, et ça reste ce qu'on apprend en école d'ingénieur. Moi, c'est ce que j'ai étudié. Hein. Le bois, c'était un petit module à part sur lequel on pouvait s'inscrire, parce que donc aujourd'hui le marché, ce qui se fait principalement, ce qui se construit, c'est du béton ciment, c'est de la charpente métallique et puis les isolants qui vont bien avec ça. Vas-y Laurent.
Laurent.
Oui, on dit en France qu'une nouvelle loi, elle met 10 ans à se mettre en application. C'est un adage. Hein, et ici, on est un petit peu à la même chose. C'est-à-dire que les différentes règles pro, elles datent de 2007-2012. On arrive aux 10 ans et on a la RE 2020 qui vient booster tout ça. Ce qui fait que ça va sortir. Et d'ailleurs, ça commence à sortir aujourd'hui en tant que référent. référent national technique, il se passe pas une journée sans que j'ai un appel, soit d'un de mes collègues, soit d'un client potentiel qui a une problématique liée au biosourcé. Donc c'est parti. Ça y est, on est sur les rails. La question, c'est la formation, parce que de partir, c'est bien. Jusqu'à présent, on avait essentiellement des architectes comme Benoît, comme Quentin ou comme d'autres. Pionniers, militants, convaincus, qui ont fait, et des artisans aussi dans le même tonneau, convaincus et qui ont tout fait pour que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de mauvais retour d'expérience. Aujourd'hui, on va développer tout ça. Si on n'élargit pas le niveau de connaissance, on va se retrouver avec des sinistres. Et c'est pas le but. C'est pour ça que effectivement, c'est important que dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'archi, dans les instituts de formation d'artisans, on introduise à ces questions-là, mais aussi dans la formation tout au long de la vie. Avec le compte personnel de formation par exemple, et puis à l'intérieur aussi des organismes, nous à la PAV, on forme, donc je vous ai dit, on a un réseau de, on essaye d'avoir une personne par agence qui soit notre relais, ouais. On forme en fait en continu ces contrôleurs techniques pour justement accompagner au mieux et prévenir les aléas techniques en connaissance de cause et en connaissance du matériau.
Lionel Correa, justement, une réaction à ce qui vient d'être dit. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, vous disiez, hein, dans d'autres établissements, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette notion du biosourcé et pas cette appétence. Pourtant, on sent que ça monte. Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un référent? Est-ce que vous-même, vous êtes sollicité peut-être pour ouvrir la voie sur d'autres CFA?
Oui, alors effectivement, nous sommes sollicités par la région Grand Est, où effectivement, vous avez également le même réseau du bâtiment, hein, les différents CFA du BTP qui effectivement souhaitent développer ce type de formation pour les jeunes en formation initiale, en fait. Hein. Donc ça commence un petit peu à s'organiser. Après, effectivement, on parlait de formation initiale, mais également on fait de la formation continue. Et donc au travers, donc Quentin parlait de construire en chanvre nationale. Donc moi je fais partie de construire en chanvre en Île-de-France. Hein, donc vous voyez comme quoi le monde est petit, en fait. Hein, le monde est petit. Et via Construire en chanvre en Île-de-France, on nous sollicite pour développer des formations à destination des maîtres d'œuvre et des artisans sur comment réhabiliter et construire en chanvre, en fait. Donc petit à petit, on sent qu'effectivement il y a un maillage qui est en train de s'articuler autour de la formation, et on sait très bien que ça risque de devenir un enjeu de demain de toute façon, hein. Puisque de plus en plus les politiques en parlent, on parle de plus en plus de développement durable, de construire propre. Donc effectivement, on sent quand même une avancée, hein. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes en 2021, en 2015 on n'en parlait pas autant. Donc vous voyez, petit à petit, en 6-7 ans, ça se démocratise un petit peu, hein. On acculture davantage, où on sensibilise davantage le public au développement durable, et notamment dans la construction.
Allez, c'est tant mieux. Messieurs, avec Bâti Radio, évidemment, on fait pas mal de salons. Il y a deux choses qui sont revenues en cette fin d'année 2021. C'est évidemment la pénurie des ressources, hein, même dans le biosourcé. On va y venir, vous allez me donner votre avis. Est-ce que ça vous touche également dans le champ, dans la paille? Et puis, une autre pénurie, c'est justement la pénurie de talents. Et là, on est en plein dans le sujet du jour avec la formation. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est sur des professions, tout ce qui est BTP, qui est très demandé, c'est extrêmement dynamique. Comment on résout cette équation? Est-ce que le biosourcé est une réponse? Benoît, on commence avec vous, tiens, justement, sur une pénurie de matière, de matériaux. Est-ce que la paille est touchée?
La récente crise touchait beaucoup plus le bois. Après, on va dire que nous, on en subit. On est c'est un dégât collatéral, parce que quand il y a du biosourcé, enfin, quand
il faut du bois pour faire de la paille.
Évidemment, il faut. Enfin, nous,
c'est un coffrage en général.
C'est l'ossature bois, comme le béton de chanvre ou la laine de chanvre. On fait une ossature bois, donc.
Quand il n'y a plus de bois, c'est compliqué.
C'est plus difficile, mais. Après, on peut dire que certains se sont penchés sur la paille porteuse, qui est aujourd'hui pas une technique courante, mais qui existe, puisque c'est la première technique qui a été développée au Nebraska quand ils ont inventé les bottes de paille. Ils avaient très peu de bois, en fait. Et donc, du coup, ils ont empilé des bottes de paille et c'est de la paille porteuse sans bois. Donc, peut-être que si à terme, il y a énormément de problèmes d'approvisionnement du bois en France, sachant que les règles professionnelles de la paille porteuse sortiront un jour ou l'autre, c'est en cours. Ça peut être un substitut, mais bon, globalement, on a toujours besoin de faire des fenêtres, des encadrements de fenêtres. Enfin, le bois est nécessaire. Enfin, c'est un allié, comme en fait tous les biosourcés sont des alliés. Et je rebondirai sur ça, c'est que il y a une formation dont on n'a pas parlé, qui est la formation bâtisseur biosourcé. Qui est une co-formation commune avec l'ensemble des biosourcés qui sont réunis au sein du collectif français du bâtiment biosourcé, dont fait partie évidemment le chanvre. Et c'est une formation en 3 semaines où les stagiaires vont aborder toutes les techniques, y compris le chanvre. Enfin, c'est une formation unique où justement on met en commun certaines bases communes qu'on a. Ça sert à rien de les faire deux fois, une fois pour le chanvre, une fois pour le bois, une fois pour la paille.
Dans les 3 semaines, on a tout. C'est formation initiale, formation continue ?
C'est une formation continue, plutôt, d'accord. Aujourd'hui. Elle est en cours d'élaboration.
Quentin, même question là pour ce problème de pénurie. Est-ce que le chanvre, on a les mêmes ressorts, les mêmes difficultés ?
Le bois, c'est clair et net que ça a été un gros sujet. Moi, je l'ai vécu aussi en tant que professionnel sur le côté au niveau des commandes et quand on passe des marchés avec les entreprises. Maintenant, c'est redevenu à la normale, quasiment à la normale, sauf que les prix sont restés élevés. Donc, il y a eu un petit sujet inflation. Après, le chanvre, les laines de chanvre, qui sont des produits manufacturés sortis d'usine, un peu comme une laine minérale, hein, il y a eu un sujet. Elles ont été impactées par ce sujet-là, parce que principalement, il y a un phénomène qui se passait dans le bâtiment, un peu comme le phénomène paquet de pâtes et rouleau de papier toilette que tout le monde a accumulé chez soi.
Ah bon, tout le monde s'est jeté dessus, d'accord.
Bah, c'est ça, c'est plutôt les négoces qui ont stocké, et donc il a fallu jongler de négoce en négoce et passer des coups de fil avec les entreprises pour être sûr d'avoir la laine qu'il fallait. Ouais. Donc ça s'est plutôt rétabli. Après, ce qui est plutôt positif pour l'avenir, c'est qu'il y a... Il y a deux grosses chanvrières principales en France, qui sont une chanvrière dans l'Ouest et une chanvrière dans l'Est. Et les deux sont en train. Alors il y en a une qui vient de terminer son usine et qui double sa surface d'hectares de chanvre cultivée pour pouvoir produire alors pas mal de choses, mais entre autres de l'isolant pour le bâtiment. Mmh. Et de l'autre côté, ils ont lancé le projet de construction de leur usine. Donc là, c'est en Vendée. Donc si la demande devait augmenter, normalement la filière chanvre devrait être capable de pouvoir répondre à ces augmentations.
D'accord, c'est laine de chanvre dont nous parlez, c'est du made in France ou vous sourcez ailleurs ?
Non, c'est du made in France, made in France à 100% pour ce qui est du chanvre. Après, pour les laines qui sont mixées, qui rajoutent de la ouate ou du lin, je ne connais pas le processus. Après, j'imagine que c'est du coton et du lin français également, puisqu'on a la ressource sur le territoire. Mais le chanvre, oui, c'est vraiment du made in France, que ce soit sur l'aspect normatif pour les règles professionnelles ou la ressource, la chaîne vote, le bois de chanvre provient des cultures françaises. Tout à fait.
Laurent, un commentaire justement, Laurent Dante, sur cette pénurie qu'on observe à tout niveau, hein, d'ailleurs.
Alors, moi, je vais surtout vous parler de la pénurie de talents.
D'accord, ça en fait partie. C'est vraiment les deux grands sujets qui reviennent.
Hein. Ouais, c'est super important. Et en fait, ce qu'il y a autour de la construction biosourcée, géosourcée, j'ajouterais le réemploi aussi, qui est une problématique un petit peu connexe, c'est qu'on donne du sens à notre boulot. Nous contrôleurs techniques, mais le maçon, enfin le l'intérimaire, tout le monde, en fait tous les protagonistes, tous les acteurs du chantier donnent du sens à leur boulot. Et ça, ça a pas de prix. C'est-à-dire que nous, en contrôle technique, on peut avoir des affaires où c'est tout le temps pareil, avec de l'aglo, c'est tout le temps pareil, et on tourne un petit peu en rond. On a tout vu. Alors que là, justement, intellectuellement, on va se poser des questions, on va revenir aux sources de notre métier, qui est l'analyse de risque et la prévention des aléas techniques. Et notre métier, c'est pas de prendre un DTU et de coller un projet dessus et tout ce qui dépasse en allume. C'est pas du tout ça notre métier. Notre métier, c'est justement de faire de l'analyse de risque. Et pour ça, on a besoin de talents et on a besoin d'être formé. Et ce que la petite anecdote, quand je travaille, donc nous on travaille en binôme, comme je vous disais, je suis en référent national, je peux pas me déplacer sur toute la France, donc je travaille en binôme avec mes collègues de locaux. Et donc à l'issue du chantier, je leur demande bah, alors comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as pensé de ce chantier biosourcé, et je m'attendais à une réponse technique, et en fait la réponse qui m'a été apportée c'était les relations humaines sur le chantier sont complètement différentes du chantier habituel en traditionnel, parce que vraiment il y a du sens à notre métier à tout point de vue, hein, du charpentier à l'enduiseur au chanvrier, à tout le monde, à l'architecte.
On retrouve quoi, un plaisir de travailler, de faire quelque chose qui a du sens, qui fait sens, qui dans le futur aussi va peut-être créer moins de dégâts collatéraux entre guillemets.
C'est ça, on se sent utile. On se sent utile parce qu'on est sur de l'économie circulaire. On génère de l'emploi local, de la matière locale, et puis de la matière grise aussi. Parce que il faut se casser un petit peu la tête, on peut le dire quand même, hein, pour essayer de faire bien les choses. Et ça, c'est hyper épanouissant.
Bon, je vois Benoît qui sourit sous son masque en studio. Bah, c'est vrai que on est quand même au début de quelque chose. Alors peut-être on retrouve ces techniques ancestrales, puisque ce sont des matériaux qui étaient là évidemment avant les matériaux plus modernes, on va dire acier, béton. Lionel, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez également, ce besoin de sens là auprès de vos étudiants?
Oui, tout à fait, parce que en fait, c'est un état d'esprit. Comme je disais, c'est un état d'esprit. Moi, ce que je peux constater avec le recul que l'on a sur la construction du démonstrateur biosourcé, c'est-à-dire que quand les jeunes travaillent sur le démonstrateur, on leur explique, si vous voulez, la façon de faire, en sachant que la façon de faire, finalement, n'est pas tellement différente de ce qu'ils ont appris précédemment, même dans l'entreprise. Mais par contre, ils travaillent en complète autonomie et de façon structurée. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment attentionnés à ce qu'ils font. Et je vous assure, c'est vraiment un plaisir de les voir travailler. Les problématiques, ils les traitent entre eux. Donc le formateur, il supervise, mais il supervise de loin. Et je sens vraiment qu'il y a une différence entre les jeunes qui travaillent avec des matériaux biosourcés et des jeunes qui travaillent avec des matériaux comme en entreprise, en fait. Hein. C'est, on le sent tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais sur le démonstrateur et vous aviez justement des titres plaquistes que l'on forme depuis cette année. Ils travaillaient sur le démonstrateur. Ils étaient en train de poser de la biofibre, hein, donc en isolant sur le plafond. Et en fait, j'étais estomaqué. Donc, il y avait deux jeunes qui travaillaient complètement en autonomie. Le formateur était présent pour superviser. Et en fait, c'était les jeunes qui trouvaient des solutions. Alors que quand ils travaillent par exemple en cabine, parce que quand je dis en cabine c'est dans l'atelier, c'est complètement différent, donc il y a un brouhaha, ils sont pas forcément attentionnés, donc je pense que c'est vraiment l'état d'esprit. En tout cas, moi je le sens, en toute honnêteté je le sens. J'ai un autre exemple en tête également qui me vient, c'est lorsqu'on a commencé à travailler sur de la terre crue parce qu'on n'avait pas forcément le savoir-faire. Donc j'ai fait intervenir une entreprise extérieure spécialisée dans l'isolation en terre crue, et en fait ce que j'ai demandé à l'artisan, c'est de former et d'accompagner en même temps nos jeunes en formation. Et en fait, un artisan qui n'est pas forcément formateur, il a réussi à capter l'attention des jeunes, ce qui n'était pas gagné. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de transmettre de la pédagogie, un savoir-faire pédagogique.
Bien sûr.
Et c'était époustouflant. Donc effectivement, il y a une attention particulière pour ces jeunes-là, parce que au départ, ils ne connaissent pas le matériau, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je partage complètement ce que disaient mes collègues tout à l'heure sur l'état d'esprit.
Donc finalement, de l'école au chantier, on voit qu'on a des gens plus impliqués, plus intéressés, et finalement, qui sont, on peut le dire comme ça, c'est, on a l'impression, contents de faire ce qu'ils font. Benoît Rougelot, vous vouliez réagir justement à ce qu'on disait, c'est quelque chose que vous avez observé également?
Ah oui, tout à fait, c'est toute la notion aussi de l'intensité sociale dont on parle avec ces matériaux, c'est que... Il y a plus de, enfin, on met plus de valeur sur la qualité du travail de la personne qui dès la conception, hein, comme le dit Laurent, qui va passer certes plus de temps à concevoir un bâtiment avec ses matériaux, mais qui va prendre plus de plaisir et qui va s'impliquer pour comprendre en fait comment fonctionne ce matériau, et jusqu'à ce la personne qui va mettre en œuvre et qui n'est plus juste un poseur ou un applicateur de produits industriels et dont on lit le mode d'emploi qui ressemblerait peut-être à un mode d'emploi de meubles préfabriqués qu'on assemble juste, mais de comprendre en fait comment ça fonctionne.
Un célèbre fabricant suédois.
Voilà, donc on va pas donner le nom. Mais finalement, beaucoup de matériaux de construction sont des... Il y a une perte de compétences du metteur en œuvre.
On retrouve la notion effectivement peut-être d'artisan aussi avec ces matériaux biosourcés. Il nous reste quelques minutes, messieurs. Je voulais aborder aussi une question aussi d'actualité. On voit que le gouvernement est en train de mettre pas mal d'argent sur la table pour la fameuse rénovation, la chasse aux passoires thermiques. Est-ce que les filières comme ça, des matériaux biosourcés, sont mises à contribution ? Est-ce que vous bénéficiez justement de cet élan vers tout ce qui est rénovation avec ces différents plans qui sont mis en place? Quentin ?
Alors, le béton de chanvre, dans la filière chanvre, le 50% à peu près du marché, c'est la rénovation. C'est même un matériau qui a démarré...
La moitié.
La moitié, ouais. Et c'est même un matériau qui a démarré par la rénovation. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, les projets emblématiques, c'est surtout du neuf, c'est des immeubles, c'est de la grande hauteur, c'est des gros projets. Mais en réalité, économiquement, c'est la rénovation le cœur du sujet. Et pas que la rénovation d'avant-guerre, c'est aussi le bâti d'après-guerre. Et sur le bâti d'avant-guerre, pourquoi c'est pertinent? C'est parce que c'est un matériau qui vient pas endommager, fermer et entre guillemets, faire perdre ses caractéristiques à un mur en pierre ancien par rapport à d'autres techniques conventionnelles. C'est-à-dire que c'est vraiment un matériau qui respecte le bâti existant, donc sa porosité, sa façon de laisser la vapeur d'eau passer, son inertie, etc. Donc la rénovation, c'est vraiment un enjeu majeur pour la filière. Mais il y a un frein, c'est aussi un de ses plus gros freins, c'est-à-dire que le système de réglementation thermique aujourd'hui en vigueur et qui va continuer d'être le cas dans les années qui vont venir, c'est que tout est basé sur ce qu'on appelle le lambda, donc la conductivité thermique du bâtiment, donc la conductivité thermique du matériau. Or, ces matériaux, mais c'est le cas aussi pour la paille et pour la terre et tous ces matériaux biosourcés ou géosourcés, en fait, la conductivité thermique n'est pas que le seul paramètre, c'est aussi des matériaux qui sont capables de laisser passer une certaine quantité de vapeur d'eau et de réguler l'humidité dans les bâtiments. Et ça, c'est pas du tout pris en compte dans la réglementation. Et donc, c'est un gros frein au développement de la filière. Et dans le cas du chanvre, en rénovation, parfois, on se retrouve avec des aberrations où des bureaux d'études thermiques sont obligé de prescrire des épaisseurs très importantes, alors qu'en réalité, il n'y en a pas besoin. Et
qui devra peut-être être relevé pour les prochaines réglementations. Oui, Laurent ?
Oui, un autre frein qui est pas thermique, c'est l'aspect technique courante, technique non courante, où lorsqu'on est en technique courante, ça veut dire éprouvé quelque part et reconnu par, encore un sigle, la C2P, la Commission Prévention Produit. On a une facilité à être assuré, et comme je disais tout à l'heure, on a la possibilité de construire en technique non courante, donc non reconnue, mais ça demande une analyse de risque plus poussée et plus au cas par cas. Mais c'est possible. En revanche, Ça freine quand même le déploiement. Et typiquement sur la rénovation, il y a deux sujets là qui sont en train d'être travaillés. C'est la question des ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, soit en paille, soit en chambre, pour lesquels à ce jour on est encore en technique non courante, mais voilà, on a deux filières qui sont en train de travailler sur la question et qui j'espère, aboutiront à un document de qualité qui permettra justement de prévenir les risques et qui faciliteront le déploiement de ces matériaux et qui faciliteront aussi le boulot des contrôleurs techniques.
Ça peut être pas mal, effectivement. Benoît Rougeau, la question de la rénovation.
Je suis totalement en accord avec ce qui vient d'être dit par Quentin et Laurent.
Opportunité, mais aussi limite.
Effectivement, aujourd'hui, même la nouvelle réglementation prend très peu en compte y compris l'inertie pour le confort d'été, qui me semble être quand même l'enjeu d'avenir,
avec le
réchauffement climatique.
Ça risque d'augmenter.
Et la régulation hygroscopique, qui est peut-être plus du confort d'hiver. Mais voilà, on s'en tient à ce chiffre du lambda, qui est la résistance thermique, et je vais pas redire ce qu'a dit Quentin, qui concerne effectivement tous les matériaux biosourcés qui ont des capacités de régulation hygroscopique. Et concernant l'ITE, je pense que, Laurent, tu le dis à dessein parce que tu connais bien le sujet, et tu sais qu'au réseau français de la construction paille, on y travaille pour avoir des règles professionnelles de l'ITE en bottes de paille, même si on en a déjà fait, mais on va, comme les règles professionnelles de base, il y a eu des projets, on fait règles, et les règles arrivent après les projets et régulent tout ça, normalisent tout ça. On est habitué, après c'est un peu long.
Faut prouver que ça fonctionne d'abord, et ensuite montrer en tout cas, avoir comme des startups, des preuves de concept, et ensuite la régulation s'adapte. Oui, Laurent.
Et c'est en ça qu'on a besoin de pionniers qui travaillent avant les documents normatifs. Et pour ça, on a besoin de maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Enfin, c'est un acte politique aussi de dire « je prends le risque », on a besoin des assureurs. Mmh. On a besoin de contrôleurs techniques aussi qui suivent et qui accompagnent. C'est vraiment un travail d'équipe et l'avenir, il est devant nous et les degrés aussi. Donc, à nous de jouer quelque part.
Bien sûr. Lionel Correa, si vous voulez rebondir sur cette question.
Je dirais que l'avenir, c'est nos jeunes. Il faut les acculturer. Mmh.
Alors vous remplissez le contrat. Oh, tiens, une question en passant justement sur ces jeunes, parce qu'il y a la question de l'emploi. On sait que, alors je le disais tout à l'heure, on est sur des métiers en tension, mais à peu près dans tout le BTP. Comment ils s'en sortent? Est-ce qu'ils sont courtisés finalement, ces jeunes? Est-ce que c'est des profils aujourd'hui attractifs quand on met spécialiste des matériaux biosourcés
sur son CV? En toute honnêteté, pas encore.
Pas encore.
C'est pas suffisamment. Mm-hmm. Pas encore. Il y a une méconnaissance encore, je dirais de façon générale. Donc, pour l'instant, au moment où je vous parle, ce n'est pas encore une valeur ajoutée.
D'accord. Bon, merci de répondre en toute franchise. C'est pas la peine de survendre, mais de toute façon, ça va venir. On sent bien avec cette acculturation dont on parle. Effectivement, on en a besoin de diffuser cette bonne parole. Petit exemple personnel. Moi, je suis allé dans une maison en bois complètement au cœur des Pyrénées. Et croyez-moi, il fait pas très bon, il fait plutôt froid, plutôt humide, et rentrer dans cette maison, ça sent très bon, et c'était un confort exceptionnel, simplement avec un poêle. La maison fait 200 mètres carrés, et on était parfaitement à l'aise, c'était absolument incroyable, et je rajoute qu'elle est fraîche aussi en été, ce qui est pas plus mal. Donc on a hâte effectivement que le matériau biosourcé ou les matériaux biosourcés progressent dans nos habitats. On verra pour l'habitat collectif, c'est aussi un gros challenge évidemment, puisque on sait les uns et les autres qu'on est quand même attiré par ces villes. On sera 80% à vivre dans les métropoles d'ici 20 à 30 ans, peut-être plus, et donc il y aura un immense challenge de côté là. Mais en tout cas, merci aux uns et aux autres d'avoir éclairé nos lanternes sur les matériaux biosourcés et cet enjeu de formation. Merci à Benoît Rougelot, je rappelle que vous êtes président du RFCP, le réseau français de la construction paille. Merci à Quentin Pichon, administrateur de Construire en Chambre. Merci Quentin, c'était très clair. On sent que la formation est passée par là, cerveau bien fait, bien expliqué. Laurent Dande, merci également. Vous êtes référent national technique pour les constructions biosourcées et contrôle technique à la PAV. Et enfin, Lionel Correa, directeur du BTP CFA au Caire. Merci messieurs d'avoir participé à ce numéro de Low Carbon Construction. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro sur Bâti Radio. Très bonne journée à tous.
Low Carbon Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bâti Radio.